En 2026, la facturation électronique devient obligatoire. Mais promis, on ne vient pas vous vendre telle ou telle plateforme. Non, on est là pour vous conseiller la solution la plus adaptée. N'attendez plus, rapprochez-vous de votre expert comptable pour réussir sereinement votre passage à la facturation électronique. Rendez-vous sur mafacture-monexpert.fr. Ceci est un message de l'Ordre des experts comptables.
Elle invite à un voyage intérieur porté par le titre « Mon monde à moi », comme un hymne à la reconnexion à soi. Mon monde à moi, Dame de Carreau. Un coup de cœur, ici même. Ici, le Crédit Mutuel donne le la à la musique.
Décibel. Émilie Mazoyer.
Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans votre Décibel du mardi. On est en direct ensemble jusqu'à 21h. Qu'est-ce qui vous attend? Écoutez, plein de bonnes choses, comme d'habitude, hein, vos oreilles ne vont certainement pas se plaindre de célébrer l'anniversaire de Plastic Bertrand, de découvrir une toute nouvelle chanson d'une chanteuse suisse que j'aime beaucoup qui s'appelle Vendredi sur mer. L'actu musicale. On vous parlera aussi du spectacle des Enfoirés qui arrive vendredi, la balade des Enfoirés. On s'est baladé justement dans les coulisses de ce grand spectacle qui a été enregistré à Bercy, comme disent les vieux, à l'Accor Arena, comme dit le groupe Accor. Et je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, mais on vous prévoit une émission spéciale vendredi soir. On jouera aussi au Blind Test ce soir. Le thème, les tubes en espagnol, en espagnol, comme on dit là-bas. Si jamais ça vous inspire, alors appelez-nous 0810 055 056. Non seulement le cadeau est chouette ce soir, parce que c'est le livre de Laurent Vallière, 42e rue, très très beau bouquin, mais en plus le thème est sympa et on pourra parler en espagnol tous ensemble. Alors voilà, appelez le standard, c'est Oumaïma qui vous y attend ce soir. Et bonsoir Laurent Vallière.
Bonsoir Émilie Mazoyer.
Je suis très contente de vous retrouver. On va le dire tout de suite, à un moment, un tu peux m'échapper, car nous avons fait nos débuts ensemble sur la radio Le Move.
Dans une ville rose.
Ouais, dans une ville rose.
Et on dit rose. Vous avez perdu votre accent.
Ouais, bah moi aussi. Vous aussi. Hein. Et alors Laurent, lui, s'occupait du cinéma et moi, je m'occupais du standard. Et voilà, je trouve que la vie nous a bien traités, Laurent, car aujourd'hui, on fait ce qu'on a envie de faire. Ici, une émission de musique et vous, une émission incroyable sur France Musique qui s'appelle 42e rue, c'est le nom de votre bouquin. Et la 42e rue, qu'est-ce que ça représente sur le plan de la ville de New York?
Alors, elle est au centre, là, elle est très enneigée après le blizzard qui a eu hier. Il y a un mois, j'avais eu la chance d'être à New York pendant la première tempête de neige. Et voilà, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Et les devants, vous savez, c'est assez... Dans les films, on voit souvent un peu de neige sur les affiches.
Oui.
Et sur les comment dire,
les petites lumières.
Les petites lumières, et là, elles étaient là, vraiment, la neige, c'était très beau, sur les titres des spectacles qu'on peut voir dans la rue. Alors, sur la 42e rue, en fait, vous avez quelques grands théâtres, notamment le New Amsterdam Theater, qui est un des plus vieux théâtres de New York, où on peut voir Aladdin, la comédie musicale, c'est l'adaptation du dessin animé
Disney.
Avec un tapis magique très volant, avec un génie complètement farfelu. Et voilà, il y a deux, trois grands théâtres sur cette grande rue. Il y a aussi Harry Potter, là c'est pas une comédie musicale, c'est une pièce de théâtre avec un décor monstrueux.
Ouais.
Et puis après, dans les rues au-dessus, 43, 44, 45e, vous avez en tout 41 théâtres. En fait, à Broadway, le théâtre de Broadway, par définition, c'est un théâtre où il y a plus de 500 places, il y en a 41 en fait, théâtre à Broadway.
Et donc ils sont autour de cette 42e rue.
Exactement.
Donc quand on veut parler de ce quartier des théâtres et des comédies musicales, on parle de cette rue 42e rue. C'est donc votre émission sur France Musique. C'est aussi le nom de ce beau gros bouquin. Donc c'est une coédition Marabout et Radio France et France Musique. Et donc vous nous prenez par la main et vous nous emmenez dans la grande histoire des comédies musicales. Alors oui, on va croiser des trucs très très récents. Il y a notamment La Haine, l'adaptation du film de Kassovitz en comédie musicale. Mais il y a aussi des trucs sublimes des années 30, ce moment, vous expliquez, hein, où on passe de l'opéra à la comédie musicale. Parce que c'est vrai que si on se dit, attendez, il y a de la musique, des gens qui chantent pour raconter une histoire, un orchestre, on se dit, c'est quoi la différence entre l'opéra et la comédie musicale?
Eh ben, c'est la pop musique,
ouais.
Si je résume, en fait. En fait, la comédie musicale, c'est intéressant parce que Une des premières musiques de la comédie musicale, c'est un peu l'opérette. Oui. Vous voyez? Et puis après, ça va devenir le jazz, dans les années 30. En fait, à chaque fois, la comédie musicale a ceci de particulier par rapport à l'opéra, c'est qu'on sort de la musique classique pour un peu faire danser les gens. Vous avez aussi, ce qu'il n'y a pas souvent dans l'opéra, des chorégraphies impressionnantes.
C'est vrai, ça danse moins à l'opéra.
La toute première comédie musicale, elle est née dans les années 1860. En fait, c'était par accident, on va dire. Il y avait un producteur qui voulait monter Faust, et il y avait une troupe de danseuses françaises qui devaient se présenter et se produire un ballet, quoi. Et en fait, le théâtre où devait se produire le ballet a brûlé, et il y a un producteur qui s'est dit, mais je vais mélanger les deux. Et donc, du coup, il a créé cette pièce un petit peu bizarre qui a cartonné, qui s'appelle The Black Crook, qui a été justement un mélange de chansons, de pièces de théâtre et de danse. Et la comédie musicale était née.
Alors, vous nous parlez par exemple de Gershwin, un grand compositeur, et Porgy and Bess, chanté par Louis Armstrong ici et Ella Fitzgerald. C'est considéré encore comme un opéra, mais en vrai, c'est une super comédie musicale. Hein.
C'est vraiment très bien de démarrer par ça, parce qu'en fait, c'est vraiment... Vous savez, il y a des genres et il y a des cloisons.
Oui, toujours.
Alors, en fait, si vous allez voir Porgy and Bess, qui est cette histoire absolument incroyable de racisme, de cocaïnomane dans le sud de l'Amérique, avec que des artistes noirs dans une ville, qui est... avec des pêcheurs qui vont partir en mer, et il y a une tempête, il y en a qui meurent. Enfin voilà, c'est une histoire très très sombre. On se dit absolument pas que c'est une comédie musicale. Et pourtant, et d'ailleurs, c'est chanté, c'est un peu construit par George Gershwin comme un opéra. Chaque personnage a des chants très lyriques, comme on vient d'entendre. Mais la différence avec l'opéra, d'abord, c'est que vous avez entendu, il y a des airs un petit peu jazzy. Là, c'est du blues, en l'occurrence. Gershwin avait été là-bas pour un petit peu entendre la musique qu'on entendait dans le sud des États-Unis.
Non, en 1935.
En 1935. Et surtout, c'est créé dans le... Non pas... Aujourd'hui, Porgy and Bess, c'est une œuvre qu'on entend dans tous les opéras du monde entier. Le Metropolitan Opera l'a joué il n'y a pas longtemps, l'Opéra de Paris peut le faire. Mais ça a été créé, en fait, dans le théâtre privé, donc à Broadway. Et en fait, la grande différence entre l'opéra et la comédie musicale, c'est que à l'opéra, on sait que les airs sont très compliqués, et donc on laisse 2 jours de repos à une chanteuse avant de recommencer. Là, la chanteuse, elle chantait tous les soirs, 8 fois par semaine, parce qu'à Broadway, vous avez des représentations tous les jours, et 2 le samedi, 2 le mercredi. Et il faut imaginer quand même la difficulté que c'était. Donc en fait, c'est vraiment le mélange incroyable. C'est-à-dire que Gershwin voulait atteindre un public populaire, a créé cette comédie musicale opéra dans le théâtre privé. D'ailleurs, ça n'a pas très bien marché, parce que les gens étaient un peu surpris, et c'est devenu le classique dont vous parlez.
Eh oui, Porgy and Bess. Alors, dans les années 50, on a Cole Porter, lui aussi, vous en parlez beaucoup dans le livre, c'est comme Gershwin, c'est un incontournable. Et il fait chanter I Love Paris à Frank Sinatra et Maurice Chevalier. S'appelle Cancan, comme le French Cancan.
Faut dire que Cole Porter était un grand amoureux de Paris. Alors, pour la petite histoire, il avait dit que quand il avait 20 ans, il avait quitté ça. Alors, il est né dans une famille très riche. C'est très rare dans le monde de la comédie musicale. Ouais. Généralement, Gershwin, tous ces gens-là, c'est des Russes qui ont immigré aux États-Unis, qui sont partis de zéro. Lui, son père avait des fabriques de pétrole. Enfin, voilà. Il roulait.
Il était bien.
Il était très, très bien. Il avait même gagné pas mal d'argent à la rue et vers l'or. Et en fait, lui, il raconte qu'à 20 ans, il est parti en France pour s'engager dans la Légion étrangère dans les années 1900, pendant la Première Guerre mondiale, ce qui était complètement faux. Et en fait, par contre, il a vraiment vécu la belle vie à Paris. Il s'est marié avec une femme richissime. Il a acheté un hôtel particulier près de la Tour Montbourg. Enfin, c'est un truc de fou. Et il a la particularité, donc, d'avoir vraiment aimé cette ville. Il a écrit beaucoup de comédies musicales qui parlaient de Paris. Il y en a une qui s'appelle tout simplement 50 millions de Français, 50 millions de Frenchmen. Et donc, il a écrit cette air I Love Paris. Et il a une particularité, ce qui n'est pas toujours le cas dans la comédie musicale. Il écrit la musique, mais aussi les paroles.
Ah oui, souvent, c'est plutôt des duos. Ouais.
C'est des duos. C'est-à-dire que la comédie musicale, c'est vraiment un travail de collaboration. Vous avez le compositeur, normalement, le parolier, le scénariste qui écrit les dialogues, et puis le metteur en scène, et le chorégraphe.
Ouais.
Et non, là, il écrivait à la fois les paroles et les musiques.
Et puis dans les débuts, dans les années 50 de ces comédies musicales, vous en citez une qui, pour vous, vraiment, Laurent Vallière, est celle qui va faire exploser le genre, et puis qui va aussi devenir un film, et qui, encore aujourd'hui, voilà, est adapté, réadapté, c'est West Side Story. I like to be in America, okay, by me in America, everything free in America. Il y a toujours quelque part dans le monde un West Side Story qui se joue dans plein de langues différentes. Enfin, c'est vraiment un spectacle qui... Quand ils sont venus à Paris, d'ailleurs, c'était sous-titré.
Ouais. En France, c'est souvent joué sous-titré.
Ouais.
En fait, c'est un spectacle total West Side Story. Pourquoi je dis ça? C'est que quand vous allez voir une comédie musicale, c'est comme une mayonnaise. Je vous parlais de 5 collaborateurs. Oui. Si jamais la mayonnaise ne prend pas, il suffit que les chorégraphies soient moches, que les dialogues soient nuls, que les musiques soient pas terribles, qu'un acteur soit pas bien. Il suffit d'un seul élément pour que tout tombe.
Ouais.
Et là, West Side Story, c'était la perfection. À tel point, par exemple, je sais pas si vous vous rappelez du début de West Side Story. Vous savez?
Ouais.
Les jets qui claquent des doigts. Au départ, Arthur, on dit que c'est le plus court script de l'histoire de la comédie musicale, en termes de dialogue. Au départ, Arthur Lawrence, le librettiste, avait écrit des dialogues pour les Jets. Il se parlait, il critiquait un peu les Portoricains, les Sharks. Et Jérôme Robbins, qui était à la fois chorégraphe et metteur en scène, a dit « Mais j'ai peut-être mieux. Je vais véhiculer l'impression qu'il y a une animosité entre les deux troupes, juste entre les deux bandes, juste en les faisant danser et en claquant des doigts. » Et en fait, le travail de collaboration était parfait, ce qui fait qu'à chaque fois, on enlevait des dialogues pour que ça soit plus efficace. En fait, quand on fait une comédie musicale, c'est presque quand on monte un film, sauf que vous avez des personnages sur scène, en vrai. Ouais. Et donc, c'est d'une complexité incroyable.
Singing in the Rain, je sens que ça vous plaît, puisque j'ai lu vos mots dans votre livre 42e rue, la grande histoire des comédies musicales. C'est un film, là, pour le coup,
qui n'a jamais été monté.
Ça n'a pas été monté. Voilà.
Enfin, à Paris, le Théâtre du Châtelet l'a monté. Mais au départ, alors c'est une histoire incroyable. Chantons sous la pluie, c'est... En fait, l'âge d'or d'Hollywood, on a dans les années 50 une unité à la Metro-Goldwyn-Mayer, qui était le grand studio avant l'arrivée du rock'n'roll, avant que tout ça ne tombe, avant l'arrivée de la télévision. Il y avait vraiment un énorme studio avec à demeure, il faut imaginer, des stars que vous payez à l'année.
Pour qu'elles soient dispo,
et on te dit, généralement, elles apprenaient dans le journal qu'elles allaient jouer dans tel film. On leur demandait pas vraiment l'autorité, si elles avaient envie ou pas. Il y avait un orchestre à disposition, à plein temps. Et donc, là, des studios absolument incroyables, là, pour tourner la séquence de Gene Kelly, qui danse avec un parapluie, il avait à disposition tout le plateau, faire des trous pour que l'eau, quand elle tombe, elle ne rebondisse pas sur lui pour qu'il puisse faire ses sauts dans la flaque. Et donc, c'est aussi vraiment une œuvre absolument merveilleuse.
Singing in the Rain, on va les écouter, Gene Kelly et Debbie Reynolds. Et on est bien avec les comédies musicales et avec Laurent Vallière, invité ce soir de Décibel.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. dancing in the rain. Yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in.
Chez vous, chanter, danser sur Singing in the Rain. Laurent Vallière, ça vous fait des émotions, Singing in the Rain, je vois.
Mais oui, et vous savez, d'abord ça donne la banane.
Oui, c'est vrai.
Toujours. Vous savez, la plus grande difficulté, le plus grand risque quand vous faites une comédie musicale, c'est de voir les coutures. C'est-à-dire que tout d'un coup, alors, tous les deux on parle, et puis d'un coup vous vous mettez à chanter.
Oui.
Et les auditeurs vont dire, mais n'importe quoi, ça sort de nulle part. Et donc en fait, une des grandes difficultés, et ce qu'avait vraiment soigné Gene Kelly dans Chantons sous la pluie, c'est pourquoi quand il sort de la maison de Debbie Reynolds, tout d'un coup il se met à chanter sous la pluie. Ça n'avait aucun sens. Et donc, il s'est dit, eh bien, voilà, il est un peu dans un sentiment amoureux, il vient d'avoir l'idée de que ça soit elle qui va doubler Lina Lamont, enfin bon, toute l'intrigue. Il voit bien qu'il est un peu amoureux d'elle, il referme la porte, et il réfléchit et il se dit, eh ben, je vais siffloter. Et donc, il se met simplement à siffloter. Là, pour le coup, c'est tout à fait naturel. L'orchestre démarre. Et la chanson démarre.
Et ça démarre pas comme un cheveu sur la soupe.
Et ça démarre pas comme un cheveu sur la soupe.
Bah oui, mais ça c'est la classe. Alors, après Gershwin, Cole Porter et Bernstein et Sondheim, hein, de West Side Story et ce Singing in the Rain, donc intéressons-nous aux comédies musicales françaises, parce que ça arrive aussi chez nous, évidemment. J'ai une tendresse particulière, je sais pas si vous aussi, pour un film, qui est d'abord un film et ensuite ça a été monté dans les théâtres, hein, en comédie musicale. Mais bien plus tard, c'est un film de 1967 qui s'appelle Les Demoiselles de Rochefort. Ah,
oui. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mis face à la.
Et très bien habillées, je dois dire.
Ah oui.
Avec des très belles robes, des très jolis chapeaux.
La classe, nos Demoiselles de Rochefort, 1967. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce qu'il y a une comédie musicale française à voir absolument avant 67?
Ah
oui, alors, forcément.
Alors là, vous me posez une colle. Là, vous me parlez de films sur scène.
Ouais.
Vous avez toutes les opérettes de Francis Lopez.
Oui, c'est
Lopez.
Ça. Oui,
c'est
oui,
quand
oui.
même la grande époque. On appelle ça les opérettes d'évasion. Le chanteur de Mexico avec Luis Mariano, La Route Florie avec Annie Cordy. Il y avait quand même. Mais c'est vrai que Jacques Demy, lorsqu'il réalise Les Demoiselles de Rochefort, il a d'abord envie de faire un clin d'œil à Hollywood. Ouais. On parlait de Gene Kelly. D'ailleurs, il fait des pieds et des mains pour que Gene Kelly joue dans Les Demoiselles de Rochefort, ce qu'il va le faire. Jacques Demy avait une filmothèque chez lui. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de cassette VHS, il n'y avait pas de DVD. Non, il avait des copies 16 mm de Chantons sous la pluie, d'un Américain à Paris. Et quand il va faire Les Demoiselles de Rochefort, c'est vraiment un hommage à ça qu'il a en tête, sachant que auparavant, il avait réalisé un film qui était complètement différent et toujours aussi chanté, qui était Les Parapluies de Cherbourg.
Ouais.
Et justement, il avait voulu, et Les Parapluies de Cherbourg, là, pour le coup, personne ne voulait le produire, ça a été produit de façon miraculeuse, mais personne n'y croyait. Et une fois qu'il a eu ce succès, qu'il a eu la Palme d'Or à Cannes, qu'il a eu des récompenses internationales, là, il s'est dit, je vais faire une autre comédie musicale. Et il a même imaginé, ça a été tourné en deux langues, les Demoiselles de Rochefort.
Ah bon ?
C'est-à-dire qu'il imaginait vraiment que ça allait être un carton à Hollywood. Et donc, toutes les scènes avec Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac qui chantent « Nous sommes deux sœurs jumelles ». Ensuite, le même jour, et juste après, elle retournait la même séquence, mais en chantant « We are a pair of twins ».
En anglais, alors, incroyable.
Voilà. L'histoire, c'est que le film n'est jamais sorti aux États-Unis parce que ça a été très mal reçu. La version américaine.
Ben oui. Il y a aussi l'adaptation française de Hair, donc voilà, la comédie musicale des hippies avec notre fameux Julien Clerc tout nu. Ben écoutez, pourquoi pas à l'Olympia. Ça avait marché, ça, R, version française.
Ah, mais oui,
énorme carton.
Adapté en français par Jacques Lanzmann, mais il faut quand même expliquer pourquoi il était tout nu, parce que comme ça, vous dites.
Oui, c'est vrai, on a l'impression qu'il est pervers.
Il n'a pas joué tout nu pendant deux heures et demie.
Il y a une scène, oui, c'est vrai.
C'est la fin du premier acte. Et en fait, c'est une comédie musicale révolutionnaire, R. C'est la première fois qu'à Broadway, donc à Paris, il y a une comédie musicale où il n'y a pas un orchestre dans la fosse, mais un groupe de rock. Donc ça fait beaucoup moins cher, ça coûte beaucoup moins cher à produire. Et donc quand c'est et faut imaginer que ça a été créé à la fin des années 60, alors qu'il y a la guerre du Vietnam. C'est une comédie musicale, j'allais dire presque autobiographique, de deux jeunes auteurs qui habitent dans le East Village à New York, qui essayent d'être comédiens, qui n'y arrivent pas, qui ne veulent pas aller faire la guerre au Vietnam, et donc qui imaginent et qui racontent leur vie dans leur squat en fait. Et ça va être un carton énorme. Et donc à la fin du premier acte, ils sont tous en train de fumer du hashish, qui est aussi une nouveauté à Broadway de fumer du hashish. Et donc la lumière se tamise et à la fin du premier acte, on voit les gyrophares de la police et il y a la police qui monte sur scène. Et donc ça faisait vraiment ça a été un carton à Broadway et à Paris, et donc ils se déshabillaient pendant ce happening, les jeunes qui sont en train de fumer du hashish. Et donc à Paris, c'était aussi le cas. Et il paraît que la durée la plus longue de personnes nues sur scène de Hair, c'était en France.
Ah bah tenez, ça doit tenir au casting aussi, Laurent Vallière, je ne sais pas. On parlait de révolution, il y a la Révolution française, aussi une comédie musicale, un opéra rock que j'adore, mais qui est un petit peu oublié.
Mais que vous avez vu ?
Mais alors que j'ai vu moi adapté quand j'étais enfant, je pense.
Parce que je dis ça parce
fin des années 80.
Mais oui, ça a été monté, mais genre deux mois, trois mois.
C'est ça, en 73,
vous
l'album.
Vous étiez même pas née, je crois.
Non, j'étais pas née, mais à la fin des années 80, dans la ville où je vivais dans le Gers, à Auch, et il y avait une compagnie de théâtre et ils avaient monté la Révolution française. Et alors, elle est quand même dingue, cette comédie musicale, et vous en parlez hein, dans votre livre, parce que alors déjà, il y a plein de gens qu'on aime, il y a les Charlots, il y a Martin Circus, et il y a même les débuts d'Alain Bachung.
Dans le rôle de Robespierre.
Ouais, Robespierre. Alors pourquoi est-ce que ça floppe la Révolution française ?
Non, c'est pas que ça floppe, mais c'est vraiment intéressant. C'est une comédie musicale tournant en France.
Ouais.
Elle a jamais été remontée. Sauf
dans mon club de théâtre à Auch.
Il y a deux ans, pendant trois semaines, dans un théâtre à Paris. En fait, c'est la première fois qu'en France, parce que Hair, tout ça, c'est des importations de Broadway.
On adapte
en français. Là, c'est des auteurs de chansons françaises, Claude-Michel Schoenberg, qui venait d'avoir un succès avec Le Premier Pas, qui était très copain avec Michel Berger, et il a envie d'écrire. En fait, il raconte toujours ça, les compositeurs, et dire on en a marre du carcan des chansons de 3 minutes, on voudrait écrire des grandes histoires. Et il va s'associer avec Alain Boublil, qui est à l'époque directeur des programmes d'Europe 1, qui a une maison de disques, bon bref, et qui raconte que un soir, il est à New York, bon, tout démarre là, et il sort de Jésus-Christ Superstar, qui est une comédie musicale rock autour de l'Ancien Testament.
Oui.
Et il se dit, les deux se disent, on n'est pas Leonard Bernstein, on n'est pas George Gershwin, on n'a pas ce talent-là de musicien. Nous, on sait écrire des chansons pop, Mais finalement, ça marche, et si on allait le faire? Et donc, ils composent. Alors, la première idée qui leur vient, c'est pas Jésus-Christ Superstar, donc c'est la Révolution française. Donc, il y aura du rock pour le tiers-état, le peuple, avec les Martin Circus. Il y aura des airs un petit peu plus royaux avec le roi Louis XVI.
Oui, pour la noblesse.
Hein. Pour la noblesse. Et donc, ils appliquent tellement la méthode de Jésus-Christ Superstar, qui avait démarré d'abord comme un concept album, un album, qu'ils se disent, on va faire un double album, donc on va écrire 24 chansons, ce qui n'est absolument pas la façon de faire une comédie musicale. Et donc, c'est comme ça qu'ils produisent cet album. Et après, les histoires de production de comédie musicale en France, c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de producteur, mais tout d'un coup, il y a le Palais des Sports qui a 3 mois de disponible, et en catastrophe, ils se mettent à produire la chose sur scène, et puis c'est fini après, ça ne sera plus jamais remonté. Et c'est exactement l'histoire des Misérables, vous savez, les Misérables, qu'ils vont écrire à peu près 6 ans plus tard. Alors c'est exactement la même histoire, donc un album, metteur en scène Robert Hossein au Palais des Sports 3 mois, c'est fini, et puis il se trouve que, un an plus tard, un grand producteur britannique, Cameron Mackintosh, écoute les chansons, se dit « Ah, il y a peut-être de quoi faire une comédie musicale ». Il va remonter les Misérables à Londres, et ça l'affiche depuis 40 ans. 130 millions de spectateurs, le plus grand succès de comédie musicale au monde.
Et
c'est français.
Eh ben oui, les amis, c'était une idée. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est comme ça. Alors, on va s'écouter Starmania, parce qu'à la fin des années 70, c'est quand même l'immense succès. Les chansons sont pop, les chansons sont cultes. On continue à les chanter aujourd'hui. Plamondon, Berger, là, c'est incontestable comme succès.
Alors, vous voyez, je parlais de Claude-Michel Schoenberg, qui était ami de Michel Berger. Tous les deux ont démarré chez Pathé Marconi, et tous les deux, ils s'amusaient. Il me racontait ça que Michel Schoenberg, tout le matin, il s'amusait à dire « Ah, toi, t'as écrit une chanson hier ?» Et donc, tous les deux avaient ce rêve d'Amérique, ce rêve de devenir populaire en dehors de la France. Et donc, Michel Berger avait envie de faire un succès qui cartonne aussi à l'étranger. Et il a eu la très bonne idée de s'associer avec un Québécois, Luc Plamondon, qui, lui, a grandi, certes, dans un collège catholique, mais d'où Notre-Dame de Paris, qu'il écrira quelques années plus tard, mais qui aussi avait l'habitude d'aller très souvent à New York voir des comédies musicales. Et tous les deux vont imaginer cette histoire très futuriste qui reste tellement encore d'actualité, avec un 0 janvier qui est en opposition lors d'une élection avec un écologiste radical. Et donc, ils vont écrire cette comédie musicale. Ils vont d'abord faire un album, exactement comme pour la Révolution française. Ouais. Et comme pour la Révolution française, va y avoir un trou de 33 dates au Palais des Congrès. Et donc, ils vont monter le spectacle avec Daniel Balavoine, France Gall. Et puis, ça sera tout. C'est un truc de fou, c'est un truc qui est... En fait, on peut compter sur les doigts d'une main presque ceux qui ont vu Starmania à sa création en 1979. Mais bon, depuis... Ils en ont vendu des disques.
Ah, ça, c'est sûr. Quand on arrive en ville, Daniel Balavoine et Nanette Workman, c'est Starmania, un des plus grands succès de comédie musicale made in France.
Quand tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? C'est toujours les honneurs. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut prendre en attendant. On arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors préparez-vous pour la bagarre. Quand on arrive en ville, quand la ville souterraine est plongée dans le noir, les gens qui s'y promènent ressortent sur des brancards. On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on arrive en ville, nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux.
Beaucoup de comédies musicales, Laurent Vallière, où on peut passer à n'importe quelle heure de la journée en radio un extrait, une chanson de la comédie musicale. C'est devenu presque hors histoire de Starmania. Maintenant, les chansons, elles ont une vie toute seule, quoi.
Ben, je parlais avec Fabienne Thibault qui me racontait, elle qui a créé le rôle de Marie-Jeanne, qui racontait que je suis la serveuse automate. Ça reste encore dans la mémoire de tout le monde. Ouais. Alors, on a tous, on connaît tous quelqu'un qui n'aime pas le travail qu'il fait. Oui. C'est vraiment, en fait, ce sont des chansons que chacun d'entre nous peut reprendre à son compte.
C'est ça.
J'aurais voulu être un artiste.
Oh, le blues jamais du businessman, mais bien sûr. Alors c'est encore meilleur dans un karaoké un peu bourré, mais de toute façon.
C'est pas facile à chanter, vous êtes chanteur.
Pour ça, on a l'excuse du karaoké. Mais ça aussi, c'est dingue. C'est-à-dire que le blues du businessman, quand on arrive en ville, le monde est stone. Ben ouais. Les trois chansons n'ont rien à voir les unes avec les autres. Enfin, c'est quand même d'une richesse, Starmania. Moi, je trouve ça.
Il faut dire que Luc Plamondon a touché tellement juste avec chacune des paroles qu'il a écrites. C'est vraiment très impressionnant.
Alors, vous avez cité.
Le mieux, c'est quand même l'histoire des uns contre les autres, vous savez.
Non.
Il avait écrit les uns contre les autres. C'est quelqu'un qui est assez lent à écrire, Luc Plamondon.
Ouais.
Au style. D'ailleurs, Michel Berger l'avait enfermé au bout d'un moment à Saint-Raphaël chez lui pour. Maintenant, t'écris. Et un matin, la femme du ménage sort une corbeille et Michel Berger attend toujours des paroles pour composer dessus, quoi. Et il sort de la poubelle un petit papier. On dort les uns contre les autres. Et Luc Plamondon lui dit c'est pas bien ça. Et Michel Berger lui dit mais tu rigoles.
C'est vachement bien. Voilà.
Faire les poubelles avec Luc Plamondon, vous imaginez.
C'est génial. Et vous avez cité évidemment le succès suivant de Plamondon, c'est Notre-Dame de Paris. Ouais. Alors ça, les amis, on va pas vous l'apprendre. Hein. Vous la connaissez par cœur. La carrière de Patrick Fiori, de Garou, Hélène Ségara aussi qui joue dans Notre-Dame de Paris. Quand c'est sorti, vous y avez cru ou pas?
J'ai adoré.
Ouais.
Quand c'est sorti, j'ai été le voir.
98, hein, c'est ça.
Ouais, j'y allais évidemment comme un puriste en me disant ça va pas être bien, et j'étais bluffé parce que d'abord, vous savez, il y avait du hip-hop sur scène, ce qu'on n'avait jamais vu dans une comédie musicale. C'était très moderne, c'était très pur, c'est-à-dire que ça n'a pas changé, hein. Ce qui est un truc de fou, c'est que ça a été créé en 98, ça 30 ans encore, plus tard, c'est la même mise en scène,
ouais.
C'est même la même bande son, c'est-à-dire qu'ils payent toujours pas de musiciens, c'est pas en live. C'est quand même, ça a donné une très très mauvaise manie aux producteurs français de comédie musicale. C'est la France est le seul pays où on fait des comédies musicales sans musiciens.
Il y a pas d'orchestre.
C'est quand même un truc de fou.
C'est moche.
Bon, et en fait, le décor était très épuré, et c'était très sombre d'ailleurs, vous savez, quand elle est emprisonnée, enfin, il y avait des histoires. Et donc, c'était pas si niais entre guillemets, que je le pensais. Et j'avais même été vraiment bluffé. J'avais même fait un sujet pour Technicard, qui est quand même un magazine qui est
très pointu.
Très pointu. Ouais. Et je leur avais dit non, c'est vachement bien. J'ai la trace de ce truc-là.
Il a eu raison avant tout le monde. Laurent Vallière est mon invité, producteur, animateur de l'émission 42e rue, tous les dimanches à midi sur France Musique. Il nous reste encore un tout petit peu de temps pour parler des tubes qu'on transforme en comédie musicale. À tout de suite.
Si vous écoutez ici, attention, vous allez chanter. En voiture, lâchez la pression, c'est si bon.
Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent.
Vos chansons préférées toute la journée,
à peine un peu plus libre qu'avant.
C'est ici. Ici.
Ici.
C'est ici.
Vous écoutez ici.
Ici.
Ici, chaque soir, toute l'actu musicale est dans Décibels. Émilie Massoyer.
Et merci les amis de nous avoir choisis pour passer votre mardi soir. C'est Décibels en direct jusqu'à 21h. Qu'est-ce qu'on a sur le feu? Une chouette découverte, une chanteuse qui vient de Suisse qui s'appelle Vendredi sur mer, l'anniversaire de Plastic Bertrand et un blind test tout en espagnol. Vous l'avez compris, si vous écoutez l'émission depuis le début, mon invité, Laurent Vallière, est un passionné de comédie musicale, un connaisseur aussi, et pas snob, je tiens à le dire, parce que dans votre livre, 42e rue, la grande histoire des comédies musicales, coédition France Musique et Marabout, le truc pèse 9 kilos, c'est incroyable, c'est un énorme bouquin. On ne fait pas 9 kilos,
mais enfin, Marseillaise ou
c'est un beau bébé. C'est, allez, 3 kilos au moins quand même, Laurent, sérieusement. Il y a autant des trucs, effectivement, des références très pointues, vous allez découvrir des choses des années 50, des années 60. Mais il y a aussi vraiment tous les grands classiques. Les Demoiselles de Rochefort, Chantons sous la pluie. Il y a les producteurs. Il y a Grease, évidemment. Il y a du théâtre, du cinéma. Enfin, vraiment. Et puis, c'est richement illustré aussi. Donc
ah, ça, on voulait beaucoup d'images.
Ouais. Ah bah, ça, il y en a. Il y en a, contrairement aux producteurs français de comédie musicale, vous avez payé, vous. Ça se voit. Non, mais voilà. Vraiment, c'est un très,
grâce
très
aux
beau
artistes,
bouquin.
Hein. Ouais.
Et alors, je me demandais, pour terminer, Laurent, quel était votre avis sur les comédies musicales qui sont fabriqués de manière un petit peu artificielle, où on prend un artiste qui a un répertoire farci de tubes. Ça peut le faire avec Michael Jackson, on l'a fait avec Queen. Il y a la comédie musicale We Will Rock You à Londres depuis des années. Et puis celle qui, j'imagine, est un cas d'école, c'est ABBA, Mamma Mia, qui est à la fois dans les théâtres et sur les écrans de cinéma. On prend des chansons, on les met bout à bout, puis on essaye de faire une histoire autour. Bonne ou mauvaise idée?
Mais très bonne idée. En fait, vous savez, Chantons sous la pluie, c'est un des premiers films qui a fait ça.
Ah bon?
Chantons sous la pluie, en fait, le producteur de Chantons sous la pluie, Arthur Freed, qui était le grand pont des studios de la Metro Goldwyn Mayer, dans les années 1930, il avait écrit des chansons avec Nacio Abron. Et en 1950, à son poste de directeur, il dit « Ah, Gene Kelly, tiens, fais-moi un film avec mes chansons.
Ah, »
En fait, le plus important...
J'ignorais, c'est génial ça.
Et donc, le plus important, en fait, c'est le livret. En fait, c'est ce qu'on, en France, on n'a pas bien compris. C'est qu'une comédie musicale, c'est une pièce de théâtre. Vous savez comment elle a imaginé l'histoire de Mamma Mia, Catherine Johnson, la librettiste. En fait, d'abord, elle ne connaissait pas toutes les chansons d'ABBA. Elle a dit « Donnez-moi toutes les paroles de toutes les chansons, je ne veux pas entendre les musiques. » Et en fait, elle avait un passé femme célibataire, mère célibataire, elle avait envie de raconter quelque chose de contemporain, et elle a écrit son livret, et après elle a trouvé les chansons qui correspondaient. Et ce qui était incroyable quand vous alliez à Londres voir Mamma Mia, parce que les gens pouffaient, parce que vous aviez blablabla Sophie qui disait ça à sa mère, et tout d'un coup la chanson commençait, il n'y avait pas un mot de changé aux chansons que tout le monde... Non, pardon. À un moment, il y avait Sophie qui faisait ses dialogues, ouais. Et la chanson commençait, il n'y avait pas un mot de changé à la chanson. Tout était vraiment... On parlait de couture tout à l'heure, on ne voyait pas la couture. Vous avez actuellement une comédie musicale à Londres et à Bordeaux qui s'appelle Anne Juliet. C'est que des chansons de Max Martin. Max Martin, c'est un des grands auteurs de chansons pour Britney Spears,
voilà,
etc.
Voilà, gros tube pop.
Et on se dit, n'importe quoi. En fait, il a imaginé Roméo et Juliette si jamais Juliette ne s'était pas suicidée à la fin. Et si Juliette, Anne Juliet. Et ça marche l'état incroyablement, avec que des chansons donc de son répertoire. En fait, il faut que le livret raconte une histoire et que les chansons soient bien choisies. Donc, ah non, c'est formidable. We Will Rock You, c'est dans une histoire un peu futuriste, très sombre, très dystopique. Donc, pourquoi pas?
Ouais, ça fonctionne. Très bien. Merci
de nous
avoir autant éclairé. Laurent Vallière est sur France Musique tous les dimanches à midi dans 42e rue. Et il en a fait un très beau livre que je vous recommande et qui sera à gagner au Blind Test tout à l'heure. À bientôt, Laurent.
À bientôt.
Merci.
Ici à 20h, toute l'actu musicale est dans Décibel.
Et le petit rendez-vous que je voulais vous donner, c'est vendredi soir, une grande soirée consacrée aux enfoirés à 21h sur TF1. Il y a la diffusion du nouveau spectacle, La Balade des Enfoirés. Et nous, on va vous accompagner juste avant. On fera l'apéro avec les enfoirés, donc vendredi à partir de 19h. Et à notre micro, vos enfoirés préférés, Zazie, Michael Youn, Santa, Elena, Lara Fabian, Matt Pokora, Alain Chamfort, Gérard Jugnot. Et j'en passe, Notel Rancard, c'est vendredi soir à 19h. Et puis, histoire de se donner de l'élan, écoutons l'hymne des enfoirés, le premier, le vrai, avec Coluche.
Moi, je prie la rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste.
Les autres sont toujours en overdose.
J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Et pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs.
C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim. Mais ça le deviendrait si on n'y change rien.
Vendredi soir à 21h sur TF1 et de 19h à 21h, l'apéro des enfoirés, si vous voulez les entendre parler de leur engagement, tous ces artistes qui sont aux côtés des Restos du Cœur. Notez bien le rendez-vous vendredi soir à 19h et je ne serai pas toute seule. Mon camarade Laurent Petit-Guillaume sera avec nous aussi pour cette soirée spéciale.
Ici, tous les soirs à 20h, c'est Décibel.
Et c'est l'heure de jouer au Blind Test, un Blind Test tout en espagnol, parce que pourquoi pas au lait. Mais depuis la performance de Bad Bunny pour comment ça s'appelle déjà, vous savez, ce match de foot aux États-Unis, voilà, le Super Bowl, merci aux jeunes personnes en régie qui ont plus de mémoire que moi. Donc le Super Bowl de Bad Bunny, tout le monde s'est mis à vouloir chanter, danser, vivre, boire, manger, dormir en espagnol, c'est pas possible. Alors un blind test donc avec des tubes en espagnol. Je vous ai pas piégé, je vous ai pas mis un vieux Bad Bunny que personne ne connaît. Non, je vous ai mis des chansons que normalement vous avez déjà croisées dans votre parcours d'amateur de musique. Pour jouer avec nous ce soir et gagner ce très très beau cadeau, hein, le livre 42e rue de mon invité Laurent Vallière, c'est vraiment la bible des comédies musicales. Pour jouer avec nous, donc il y a Marie-Christine. Bonsoir.
Bonsoir Émilie, comment vas-tu?
Je vais très bien, et toi Marie-Christine?
Eh bien, parfaitement bien.
Ah là là, tu viens jouer.
Je suis ravie de pouvoir jouer.
Ah oui, mais tu viens jouer le bonsoir parce que vraiment le cadeau est magnifique.
Oui, j'adore les comédies musicales, même si j'en ai vu très très peu.
Bah là, elles y sont toutes. Vraiment, on a vraiment l'impression de se balader dans leur histoire, c'est une merveille. Et pour jouer avec nous, il y a aussi Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre, bienvenue.
Bonsoir Émilie.
Ah, merci.
Enchanté de vous avoir au téléphone.
Eh ben moi aussi, il paraît que c'est la première fois qu'on joue ensemble.
Oui, exact.
Ah, ça va être très très...
Et vous êtes une super belle femme.
Oh, merci Jean-Pierre. Bah dites donc, en plus un petit compliment. Mais j'aime beaucoup. Merci Jean-Pierre.
Impeccable.
Bonsoir Jean-Pierre.
Marie-Christine aussi, elle est pas mal.
Bonsoir Marie-Christine.
Hein. Ouais.
Alors, je peux dire que c'est une très belle femme parce que moi je l'ai rencontrée dans un live. Alors ça, je confirme.
Oh, eh ben...
C'est une vénarde, Marie-Christine.
Mais elle est venue nous voir.
C'est Émilie qui est une jolie femme, je l'ai rencontrée dans un live.
Bah, merci, Marie-Christine, c'est trop sympa. C'est vrai que quand on fait des ici live, on est toujours ravis de pouvoir vous croiser. Parce que voilà, c'est quand même grâce à vous qu'on est là, hein, les amis. Alors, Jean-Pierre et Marie-Christine, je redonne les règles du blind test. Nous allons écouter des chansons et il va falloir retrouver le plus rapidement possible le nom de leurs interprètes. OK ?
OK.
Très bien. Okay. Jean-Pierre, quand vous trouvez la réponse, vous dites Jean-Pierre et vous me proposez la réponse. Voilà, comme ça. Voilà. Non, mais c'est, quand on n'a pas de buzzer, on est à distance. C'est pas question pour un champion. Donc voilà, le prénom sert de buzzer. Et Marie-Christine, elle le sait puisqu'elle a déjà joué avec nous. Allez, voici un premier tube en espagnol. On cherche le nom de l'interprète. C'est parti.
Jean-Pierre.
Jean-Pierre.
Les Gypsy Kings.
Oui. Les Gypsy Kings et leur Bamboleo, premier tube en espagnol et premier point qui part chez Jean-Pierre. On continue.
Jean-Pierre.
Jean-Pierre.
Mano Negra.
Oui. Mais oui, Marie-Christine, Jean-Pierre va à toute allure. C'est un nouveau candidat, mais en fait, il est déjà à un niveau expert.
Ah oui, c'est une Formule 1 de la musique.
Jean-Pierre, la Formule 1. Oh là là.
Ouais.
Bravo,
mais
bravo.
Je laisse Marie-Christine répondre.
Pour le dernier, ok. Donc là, la Mano Negra, c'était Malavida. J'ai bossé la prononciation, je vous rappelle que j'ai fait allemand LV2.
Génial.
Mais voilà, c'est important de bamboleo. Olé.
Si, señora.
Mano negra. Mon Dieu, mais quel scandale, les profs d'espagnol doivent hurler chez eux, pardon, entschuldigung, comme on dit dans ma LV2. Alors, dernière chanson, elle est pour Marie-Christine, Jean-Pierre à l'élégance, elegancia, de lui laisser...
Merci, il faut-il encore la trouver.
J'en suis sûre, Marie-Christine, j'en suis sûre. Il y a un petit piège, mais Marie-Christine, c'est pas le genre à se faire avoir par des pièges. Tu vas voir, Marie-Christine.
Ah, je sais pas.
Marie-Christine,
Jacques Dutronc.
Oui, Jacques Dutronc.
Bravo, Marie-Christine.
Créalo.
J'ai pas beaucoup de mérite. Hein.
Écoutez, mon Jacques Dutronc en espagnol.
Jo, tengo un vito azul, algo superior. De gran calidad, marca Crack Boom U.
Crack Boom U.
Las niñas mueren de amor.
Las niñas mueren de amor. Voilà, c'est les Playboys en espagnol. Donc ça s'appelle Los Playboys en espagnol. Et donc Crack Boom.
Je pourrais pas le traduire, j'ai fait LV2, mais je pourrais pas le traduire.
Moi j'adore. Marie-Christine, bravo. C'était bien Jacques Dutronc. Dutronc, comme on dit là-bas. Et Jean-Pierre, c'était crac, parfait. Crac. Et bah, des nanas. Qu'alors ? Merci d'avoir joué avec nous tous les deux. Je vous envoie donc avec grand plaisir. 42e rue, la grande histoire des comédies musicales. Bonne soirée à vous deux, Jean-Pierre, Marie-Christine. Je vous embrasse, ou besos, comme on dit là-bas. Et voici Bad Bunny. Ah oui, le fameux DTMF. Debí tirar más fotos. Tout le monde chante ça depuis le Super Bowl. Et c'est vrai que c'est beau comme tout. Bad Bunny à la conquête du monde. Et dans Décibel.
Otro sonso bonito que ve un San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré. Y contarte las cosas que no te conté.
Te parecía a mi crush.
Y tirarte las fotos que no te tiré.
Hacho, brote, el lindo, déjame traerte una foto.
Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome patas. Dime, baby, ¿dónde tú estás?
pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnelly, Big J, tocando bota. Hoy la calle la dejamos en barata.
Y sería más bronca, yo me toco el guiro.
Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi lonquita, perico, mi kilo. Yo estoy en PR, tranquilo. Pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayude. Con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, ya le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber, beber, beber y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco, estoy bien loco. Cabrón, guía tú que estás caminando, yo estoy que choco. Estoy bien loco, estoy bien loco. Vamos a disfrutar que nunca se sabe si nos queda poco. Debí tirar más. Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena.
Voilà, depuis le Super Bowl, c'est le tube mondial. Bad Bunny était dans Décibel avec DTMF. C'est aussi le nom de l'album.
Ici, avec Émilie Mazoyer, c'est Décibel.
Il y a une artiste en Suisse que je trouve absolument incroyable et qui, je trouve, est un petit peu sous-cotée. Son vrai prénom, c'est Charline, mais pour la musique, elle s'appelle Vendredi sur Mer. Alors, elle a déjà sorti 3 albums. Le premier en 2019, Premiers émois, que je vous recommande, avec une chanson très très cool qui s'appelle Écoute chérie, avait eu un petit peu de retentissement. Mais depuis, on ne parle pas assez de Vendredi sur Mer, qui a sorti depuis Métamorphose. Et l'année dernière, un excellent troisième album, Malabar Princess. Dessus, il y a cette chanson géniale qui s'appelle Hard, avec un rocker formidable qui s'appelle Annie El Khatib. Découvrez, si ce n'est pas déjà fait, Vendredi sur Mer. Je vous promets, dès qu'elle sort un truc, je l'inviterai dans Décibel. Elle a vraiment énormément de talent.
Ouais, c'était hard. Et pour finir, je m'en fous, je t'en veux pas. Oh non, ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal. Ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal. Fais-le en vrai, ouais, bébé. Ouais, c'était hard. Et pour finir, je m'en fous, je t'en veux pas. Oh non, ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal.
mind, it don't feel like it. Shut us out my pride. Take a minute that we breathe like some space that we do right. I don't know what this has become.
Cette philosophie de vie. Non, c'est bon, ça m'a fait mal, mais je t'ai pardonné, c'est normal. J'espère quand même pour toi tout finira mal. Voilà, Vendredi sur mer, des filles qui se laissent pas faire, j'aime beaucoup.
Ici à 20h, toute l'actu musicale est en décibels.
Comment ça, faut pas souhaiter du mal aux gens? Qui a dit ça? Pardon, présentez-le-moi. Non mais voilà, et d'ici là, eh ben on fera bien comme on voudra. Et on va finir en souhaitant du bien à Plastic Bertrand, mais oui, chanteur. Alors peut-être pas de la chanson qui arrive, ça plane pour moi, hein, une espèce de doute encore, mais enfin, peu importe. En tout cas, c'est lui qui a porté cette chanson sur les plateaux télé et qui en a fait un tube. Plastic Bertrand, un de nos Belges préférés qui fête aujourd'hui ses 72 ans. Évidemment, il ne les fait pas. Et si ça plane pour vous, alors ça planera aussi pour moi et pour Plastic, pour son anniversaire. On l'écoute très fort et on chante très faux.
Bam bam, mon sas place, j'y sur mon lit à bouffer sa langue en buvant. Prends mon whisky, quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi.
Planez bien pour l'anniversaire de Plastic Bertrand. Et c'est la dernière chanson de Décibel pour ce soir, évidemment. On se retrouvera demain avec Julie Gaillet. Elle sera notre invitée pour parler de la nouvelle édition de son festival Sœurs Jumelles à Rochefort. Oui, c'est bien quand même de réviser avant qu'elle arrive. Ça va, elle arrive demain. J'ai le temps de relire les notes. D'ici là, merci à l'équipe de Décibel. Il y avait Iris Guitoni, Sarah Bécard, Nicolas Bonzon, Oumaïma Abaz et Franck Moilier. Passez une bonne soirée à l'écoute de votre radio ici. Il y a encore plein de bonnes musiques qui arrivent.